Nous n'y comprenons mis, messire. Notre sœur s'est mise soudain à trembler, comme si Satan en propre personne avait surgi devant elle, et elle a refusé tout net de même vous entrevoir. Aussitôt ensuite, elle fut secouée de gros sanglots. »
Ils étaient bien embarrassés, les deux frères Cresset. Ils avaient fait brosser leurs bottes, et Pierre avait revêtu la cotte qu'il ne mettait d'ordinaire que pour aller visiter la veuve de Montfort. Dans la seconde pièce du comptoir de Naufle, devant un Guccio qui leur opposait figure sombre et ne les avait même pas invités à s'asseoir, il se tenait plutôt penaud, et l'esprit partagé de sentiments contraires. Au reçu des lettres 2 heures auparavant, ils avaient cru pouvoir négocier comme une bonne affaire le départ de leur sœur et la reconnaissance de son mariage. 1000 livres comptant, voici ce qu'ils demanderaient. Un Lombard pouvait bien débourser cela. Mais Marie avait mis en déroute leurs espérances par son étrange attitude et son obstination de ne pas revoir Guccio.
« Nous avons tâché à la raisonner, et bien contre notre avantage, car si elle venait à nous quitter, elle nous manquerait fort, puisqu'elle nous tient tout notre ménage. Mais enfin, nous comprenons bien que si après tant d'années vous revenez la demander, c'est bien qu'elle est votre épouse véritable. Quand même le mariage s'est-il fait en secret, et puis le temps s'est écoulé. »
C'était le barbu qui parlait et sa phrase s'embrouillait un peu. Le cadet se contentait d'approuver de la tête.
« Nous vous le disons tout franc, reprit Jean de Cresset. Nous avons commis une faute en vous faisant refus de notre sœur, mais cela n'est pas tant venu de nous que de notre mère. Dieu l'est en garde, qui s'était fort buté. Chevalier se doit de reconnaître ses torts, et si Marie notre sœur a passé outre notre consentement, nous portons une part de la culpe. Tout cela devrait être effacé, le temps est notre maître à tous. Or maintenant c'est elle qui vous refuse, et pourtant je jure qu'elle n'a pas d'autre homme en tête. Ah, cela non. Ainsi je ne comprends plus. Elle a la cervelle faite de curieuses façons, notre sœur. N'est-il pas vrai, Pierre ?»
Pierre de Cressé hocha le front. Pour Guccio, c'était une belle revanche que d'avoir ainsi sous ses yeux, repentant et la langue entortillée, ces deux garçons qui jadis étaient arrivés en pleine nuit, les pieux en main pour l'oxyre, et l'avaient obligé à fuir la France. À présent, ils ne souhaitaient rien tant que de lui donner leur sœur. Pour un peu, ils l'auraient supplié de brusquer les choses, de venir à Cressé, d'imposer sa volonté et faire valoir ses droits d'époux. Mais c'était mal connaître Guccio et son ombrageux orgueil. Des deux bonnets, il faisait peu de cas. Marie seule avait de l'importance pour lui. Or, Marie le repoussait, alors qu'il était là, tout proche d'elle, et qu'il arrivait si consentant à oublier toutes les injures passées.
« Monseigneur de Bouville devait bien penser qu'elle agirait ainsi, » dit le barbu, « puisqu'il me demande, dans sa lettre, si Dame Marie, comme il est à croire, refuse de voir le seigneur Guccio. Savez-vous quelle raison il avait d'écrire cela ?»
« Non, je ne sais vraiment, » répondit Guccio. « Mais il faut croire qu'elle en a dit bien long et bien fermement sur mon compte à messire de Bouville pour qu'il ait vu si clair. »«
Et pourtant, elle n'a pas d'autre homme en tête, » répéta le barbu.
La colère commençait d'envahir Guccio. Ses sourcils noirs se serraient sur la ride qui lui marquait le front. Cette fois, vraiment, tout lui donnait droit d'agir sans scrupule. Marie serait payée de sa cruauté par une cruauté pire.
« Et mon fils ? » demanda-t-il.
« Il est là, nous l'avons amené. »
Dans la pièce voisine, l'enfant regardait le commis faire des comptes et s'amusait à caresser les barbes d'une plume d'oie. Jean de Cresset ouvrit la porte.
« Jeannot, approche, » dit-il.
Guccio, attentif à ce qui se passait en lui-même, se forçait un peu à l'émotion.
« Mon fils, je vais voir mon fils, » se disait-il.
En vérité, il ne ressentait rien. Pourtant, que de fois il avait espéré cet instant, mais il n'avait pas prévu ce petit pas lourd, campagnard, qu'il entendait approcher. L'enfant entra. Il portait des braies courtes et un sarrau de toile. Son épi rebelle se tordait sur son front clair, un vrai petit paysan. Il y eut un moment de gêne pour les trois hommes, gêne que l'enfant perçut fort bien. Pierre le poussa vers Guccio.
« Jeannot, voici... »
Il fallait bien dire quelque chose, dire à Jeannot qui était Guccio, et l'on ne pouvait dire que la vérité.
« Voici ton père. »
Guccio, sottement, attendait un élan, des bras ouverts, des larmes. Le petit Jeannot leva vers lui des yeux bleus étonnés.
« Mais on m'avait dit qu'il était mort, » dit-il.
Guccio en eut un choc. Une grande fureur mauvaise s'éleva en lui.
« mais non, se hâta de couper Jean de Cresset. Il était en voyage et ne pouvait envoyer de nouvelles. N'est-il pas vrai, ami Guccio ?»«
De combien de mensonges ne l'a-t-on pas abreuvé ? pensa Guccio. Patience, patience. Lui dire que son père était mort. Ah, les méchantes gens. Mais patience.
Pour meubler le silence, il dit
« Comme il est blond !»«
Oui, tout à fait semblable à l'oncle Pierre, le frère de notre défunt père !» répondit Jean de Cresset.
« Jeannot, viens vers moi. »« Viens, » dit Guccio.
L'enfant obéit, mais sa petite main rugueuse restait étrangère dans la main de Guccio, et il s'essuya la joue après avoir été embrassé. «